Vous écoutez On lit pour vous.
Amenez-en des bibittes. Un texte de Philippe Mercure paru le 17 janvier 2024 dans la presse. Dégoûtant. Voilà comment mon collègue Patrick Lagacé qualifie l'idée de manger des insectes. Une perception, cher lecteur, que vous partagez largement. Les résultats du sondage lancé dans nos écrans mardi sont sans équivoque. Vous êtes à peine 9% à vous dire prêt à intégrer les insectes dans votre alimentation sans retenue. À l'inverse, vous vous déclarez incapable d'en manger à 60%. Entre les deux, 20% des répondants disent être ouverts à manger des insectes s'ils ne s'en rendent pas compte. Bien sûr que je comprends cette répulsion instinctive à ingurgiter des bibittes. Mais j'aimerais, si vous le permettez, faire un peu de pouce sur cette notion de dégoût alimentaire. J'ai déjà été un vegan convaincu. Ça a duré 24 heures en 2007. La presse m'avait envoyé visiter un abattoir de porc à Red Deer, en Alberta. À l'époque, ce complexe de la taille de 62 arénas était la plus grosse machine à tuer, à découper et à empaqueter des cochons de tout le pays. Désolé pour ce qui suit, mais c'est nécessaire à mon argumentaire. J'ai vu là-bas des travailleurs vider des intestins remplis de merde dans une salle au plancher inondée de sang. J'y ai vu des porcs électrocutés, saignés, puis passés au four pour en brûler les poils, l'odeur que ça dégage. Les employés chargés de me faire visiter les lieux ont pris un malin plaisir à piger des testicules de porc sanguignolants dans un gros baril pour me les brandir sous le nez. Ça m'a pris tout mon petit change pour conserver mon déjeuner dans mon estomac. En sortant de l'abattoir, mon carnet de notes constellé d'éclaboussures de sang, j'ai roulé à travers les vastes et magnifiques champs de céréales qui couvrent les prairies canadiennes. Le véganisme était ma nouvelle religion. Ça n'a pas duré. Aujourd'hui, ma recette de porc effiloché à la mexicaine fait ma gloire auprès de mes proches. Le secret se cache notamment dans le cumin et l'origan, le jus d'une orange et une cuisson très lente. Ce que je tente de vous dire ici, c'est que le dégoût pour la nourriture est loin de toucher uniquement les insectes, et qu'on peut le vaincre. Regardez un cochon vautré dans la boue. Humez-en l'odeur, et dites-moi sincèrement que ça vous ouvre l'appétit. Faites la même chose avec une huître, un calmar, de la cervelle de veau, un roquefort. La première fois qu'on est exposé à ces produits, il faut souvent surmonter une certaine répugnance pour en apprécier les plaisirs. Attablé devant un homard, il m'arrive de me demander ce qui a bien pu passer par la tête du premier humain qui s'est dit « Tiens, je vais goûter à ça ». Un œuf est un ovule de poule visqueux qui, quand on y pense, est franchement dégoûtant. À côté de ça, une farine de grillon grillée serait la fin du monde. Je fais le pari que beaucoup pourraient s'y habituer rapidement. C'est mon cas. J'ai goûté à quelques reprises à des grillons et à des larves de ténébrions, à la fois entiers et en poudre. Je n'ai pas éprouvé le moindre haut-le-cœur. Il suffit de passer par-dessus la petite appréhension du début, comme on le fait en voyage quand on découvre de nouveaux aliments. Dans le cadre d'un projet scolaire, mes enfants ont même déjà démarré un élevage de ténébrions meuniers chez moi. Un lit de flocons d'avoine, un morceau de fruit de temps à autre, et voilà. Les larves se multiplient à une vitesse hallucinante. En lisant l'article de ma collègue Sarah Champagne, je me suis donc demandé ce que j'attendais pour mettre de la poudre d'insectes dans mes céréales le matin. Ces petites bêtes sont riches en protéines. Elles nécessitent peu de ressources pour grandir. Pour élever des grillons, vous n'avez pas besoin de vastes pâturages, ni de tracteurs ou d'insecticides, et de très peu d'eau. Les chiffres varient selon les études, mais il est aussi clair que leur élevage génère moins de GES que la viande. Pour la même quantité de protéines, le poulet produirait de 23 % à 167 % fois plus de GES que les insectes. Le bœuf, lui, en émettrait jusqu'à 1200 % de plus, selon une étude danoise. Mon collègue Francis Weil a déjà montré qu'après les déplacements en voiture, c'est l'alimentation qui pèse le plus dans le bilan carbone des Québécois. Opter pour les insectes serait une façon de me faire pardonner mon porc braisé. Parce que, même si j'ai diminué ma consommation de viande, je ne peux pas me vanter d'être végane. Je ne tente pas ici de vous convaincre, encore moins de me poser en sauveur de la planète. Vous achèterez bien ce qui vous chante à l'épicerie. Mais on peut voir les choses autrement qu'à travers nos habitudes bien ancrées. Il y a 50 ans, vous auriez dit aux Québécois que leurs enfants se délecteraient un jour de bouchées de poisson cru posées sur du riz collant, et on vous aurait renvoyé à votre steak et à vos patates bouillies en vous traitant de fou. Aujourd'hui, les sushis sont si omniprésents qu'ils ont perdu leur exotisme, et les goûts changent plus vite qu'à l'époque. Sauterelles, chipotelées, grillons caramélisés à l'érable, croûtons au ténébrion. En écrivant cette chronique, je découvre des produits québécois que je ne soupçonnais même pas. J'ai envie d'y goûter. Emmenez-en des bibittes dans l'assiette. Les tripes apprêtées à la française, par contre, j'ai encore de la misère. Toi, Pat, c'était « Emmenez-en des bibittes ». Un texte de Philippe Mercure, paru le 17 janvier 2024 dans La Presse.
La multiplication des centenaires va-t-elle bouleverser la planète? Un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 14 février 2024 dans La Presse. Depuis 70 ans, le nombre de centenaires explose dans les pays riches et ce n'est apparemment qu'un début. Les champions de la longévité rêvent désormais de vivre 120 ans. Mais jusqu'où peut croître l'espérance de vie humaine avant que la planète, déjà surexploitée, ne fournisse plus? Qui parmi nous a les moyens d'avaler chaque matin l'équivalent d'un bol de céréales rempli de coûteux suppléments entre deux rendez-vous dans des laboratoires médicaux dernier cri? Pour l'instant, seule une poignée d'aspirants immortels, découvre-t-on dans le captivant dossier de Nathalie Collard sur les nouveaux champions de la longévité, parenthèse, soufflerons-nous 120 bougies un jour, paru le 4 février 2024, fin de parenthèse. Mais qu'arrivera-t-il si survivre jusqu'à 100 ans, voire 120 ans, devient courant un jour sans nécessiter autant d'efforts? Et si 4 ou 5 générations coexistent soudain sur la planète? Vérification faite, il ne s'agit pas d'une pure utopie. La mortalité aux âges avancés et très avancés chute sans relâche dans les pays à revenus élevés, expose l'une des plus grandes expertes démographes en la matière, Nadine Ouellette, professeure à l'Université de Montréal. Citation : Au Canada et aux États-Unis, les progrès sont très importants et rapides. Fin de citation. En moins d'un siècle, le nombre de centenaires québécois a explosé et il continue de grimper à un rythme quasi exponentiel. Le bassin de semi-supercentenaires, 105 à 109 ans, et de supercentenaires, 110 ans ou plus, gonfle également. Avant la pandémie, l'âge le plus fréquent à la mort a dépassé 90 ans au Québec contre environ 80 ans en 1970. Ce qui représente une augmentation moyenne de 2 ans par décennie. D'ici seulement 50 années civiles, la durée de vie la plus commune pourrait ainsi atteindre 100 ans, en avons-nous déduit. Les démographes s'appuient sur des opérations beaucoup plus complexes pour réaliser leurs projections et les évolutions ne se font pas toujours en ligne droite. Citation « Mais ce raccourci n'est pas complètement insensé. » Fin de citation « évalue avec indulgence la professeure Nadine Ouellette. De nouvelles pandémies, Des catastrophes naturelles ou d'autres crises pourraient bien freiner les progrès à différents âges, comme le font déjà la crise des opiacés et les inégalités aux États-Unis. Mais des gains inespérés pourraient tout aussi bien survenir. Car depuis le milieu du 18e siècle, de grandes avancées médicales et sociales ont fait croître la longévité par bons imprévus, indique la professeure Nadine Ouellette. Citation « Personne n'avait vu venir la révolution cardiovasculaire. » Fin de citation, illustre-t-elle. D'autres luttes importantes restent maintenant à gagner, par exemple contre le cancer. En attendant, même si la durée de vie la plus commune varie toujours selon la cause de la mort, elle augmente à peu près au même rythme, qu'il s'agisse de maladies du cœur ou cérébrovasculaires, ou encore de quatre cancers courants. Citation « Cette découverte nous a estomaqués », fin de citation, précise la professeure Nadine Ouellette. À l'Université de Boston, où elle est chercheuse invitée, elle travaille étroitement avec le médecin gériatre responsable de la plus vaste étude au monde sur les centenaires, New England Centenarian Study. Citation « Ce type de recherche peut nous aider à trouver ce que ces personnes ont en commun pour élucider les facteurs de longévité. Mais pour l'instant, mourir à 120 ans reste une valeur extrême et exceptionnelle. Il n'est pas forcément impossible que ça devienne fréquent, je l'ignore, mais ça prendrait énormément de temps avant qu'on puisse l'observer. » Fin de citation, selon Nadine Ouellette. Pauvre planète! Comment envisager une telle perspective, même lointaine? Personne ne peut être contre l'augmentation de l'espérance de vie, répond Alain Letourneau, professeur de philosophie à l'Université de Sherbrooke. Mais si rien ne change, il voit mal comment allonger l'existence humaine de 15 % ou plus serait écologiquement viable. Citation « Ça générerait encore plus de déchets, de pollution et de produits de tout acabit qui s'en retourneraient dans les écosystèmes. » Fin de citation, avance le professeur qui étudie entre autres l'adaptation au changement climatique. Citation « Et plus la population augmente, plus répondre aux besoins devient compliqué. Les ressources ne sont pas infinies. L'assiette alimentaire est même en train de rétrécir. » Fin de citation. La désertification rendra de larges sections de pays, citation, complètement inhabitables et non cultivables, fin de citation, comme cela se profile en Espagne, dit-il. Tandis que la salinisation causée par la montée des eaux détruit des récoltes de riz en Asie. On manquerait également de place pour se loger. Citation « Le Grand Nord, ce n'est pas demain la veille qu'on va s'y installer avec nos condos. » Fin de citation. Citation « Les gens hyper riches risqueraient d'accaparer une part toujours plus substantielle des ressources, ce qui ne ferait qu'aggraver les inégalités et ne serait pas très aidant pour la paix sociale. » Fin de citation, affirme Alain Letourneau. Pour plusieurs démographes, la croissance de la population représente aussi une menace, indique Richard Marcoux, directeur du département de sociologie de l'Université Laval et de l'Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone. Citation « Mais pour d'autres, ce sont les modes de consommation qui sont les plus importants. La Terre pourrait supporter plus de gens qui se comportent comme il faut. Mais c'est sûr que si l'ensemble de la planète se conduit comme l'Américain moyen, on est dans le pétrin. » Fin de citation. Vu la baisse de fécondité à l'échelle mondiale, les Nations unies projettent que la population cessera de croître à partir de 2100. Mais qui sait ce qui se produira vraiment? Au XXe siècle, les Nations unies, la Banque mondiale et des chercheurs étaient convaincus qu'il devait y avoir un plafond à la durée de vie moyenne, rappelle la professeure Nadine Ouellette. Or, dit-elle, citation, les limites supérieures annoncées pour l'espérance de vie ont tour à tour été contredites par la réalité. L'être humain a toujours eu un grand désir de vivre. Fin de citation. C'était « La multiplication des centenaires va-t-elle bouleverser la planète ?» un texte de Marie-Claude Malbeuf, paru le 14 février 2024 dans la presse.
Maman, malheureusement. Un texte de Sylvia Galipo, paru le 17 janvier 2024 dans la presse. Elle s'appelle Jessica M. Elle a 37 ans, un mari, deux enfants, et elle essaie d'écrire un roman. Désespérément. Comment conjuguer maternité et écriture? Est-ce seulement possible? À quel prix? La prémisse du dernier roman de Janice Loca, La maudite québécoise, est tristement vieille comme le monde. Et disons qu'avec moi, Jessica M., 37 ans, maman malheureusement, publiée ces jours-ci aux éditions Somme Toute, l'autrice renfonce le clou sans ménagement. Soyez avertis, ça va saigner. Au sens propre comme figuré. Vous croyez connaître le refrain? C'est un peu plus compliqué ici, et dès les premières lignes, l'autrice met la table. Permettez qu'on résume. Une jeune mère, Jessica Martin, se retrouve un soir sur son perron. Elle laisse derrière elle mari et enfant. Elle respire enfin, s'apprête à s'évader, savoure déjà sa délivrance. Or, alors qu'elle est à deux doigts de disparaître dans la nuit, un tout sautement la fige net. Correction. Un tout sautement fiche la narratrice net. Vous saisissez la nuance? Dans un livre écrit comme un roman dans un roman, avec des mises en abîme multiples, Janice Loca s'amuse à brouiller les pistes, ce qui rend son texte d'autant plus puissant et son propos senti. Le lecteur est carrément arrêté net dans son élan, à l'instar de la narratrice, sans doute de l'autrice, devine-t-on. Et on devine juste. Rencontrée chez elle cette semaine pour en discuter, Janice Loca ne s'en cache pas. Il y a beaucoup d'elle dans cette narratrice qui tente d'écrire à tout prix un roman, ou plutôt une biographie, faut-il le préciser, une écriture qui lui permet d'insuffler un peu de poésie dans sa vie, par ailleurs plutôt terne et archi-routinière, ponctuée de tâches et autres nez à déboucher. Une biographie de qui? Un certain Dave Feu. C'est parti d'une idée il y a 15 ans de faire un roman sur Dave Saint-Pierre, confirme Janice Loca d'emblée. Je l'ai connu en secondaire 5, l'année où il est tombé gravement malade. Elle l'avait complètement oublié avec les années. C'est lors d'un souper de filles à l'âge adulte qu'elle a fait le lien. Ben voyons donc. Le petit Dave, tellement effacé, silencieux, est devenu un chorégraphe complètement trash. Ainsi germait l'idée d'une biographie. Plus facile à dire qu'à faire, car à la même époque, Janice Loca, également directrice de communication, Loca Communication, est aussi enceinte, en plein dans son deuxième congé de maternité. Vous devinez la suite? L'idée de faire un roman sur Dave Saint-Pierre est devenue l'idée de la mère débordée qui essaie de faire un roman sur Dave, dit Janice Loca. Elle va rencontrer le chorégraphe à deux reprises pour le tenir au fait du projet. Celui-ci va d'ailleurs lui donner carte blanche, mais ne fait pas mal à ma mère, elle n'a pas besoin de ça. Au début de sa rédaction, Janice Loca est encore dans le déni, signale-t-elle. J'avais une vie pas possible de jeune mère, un conjoint qui travaille fort, je passais mes fins de semaine seule avec les enfants, dont un très malade. Et j'essayais de garder le cap. Faire ce que je faisais avant. Et ça m'a rendu gravement malade. Non, toute ressemblance avec le roman n'est pas du tout fortuite. Mais attention, ce n'est pas la vraie vie, c'est une œuvre, rappelle-t-elle également, entre autres, par l'entremise de toutes ces toiles tissées dans le texte. Nombreuses inégalités. On ose ici la question de fond. Est-ce vraiment si foncièrement incompatible écrire et élever des enfants? Ce n'est pas une question ouverte, mais notre interlocutrice en a long à dire sur le sujet. « Oh mon Dieu !» répond-elle tout de go. Ce ne sont pas tant les enfants que le système dans lequel on vit le problème. Il y a tellement d'inégalités. À l'école, c'est extrêmement égalitaire, mais quand on arrive dans la maternité, tout à coup, bang, rappelle Janice Loca. Le conjoint a beau être un super bon gars, jamais il n'a été question qu'il fasse du temps partiel ou qu'il ne fasse pas de temps supplémentaire, poursuit-elle. Et moi, personnellement, je suis arrivé dans un espace où, de facto, j'étais la deuxième. L'emploi du conjoint va passer avant. Encore aujourd'hui, ce sont les chiffres qui parlent. Ce sont les mères qui prennent 45 des 52 semaines de congé parental. Et puis après, ce sont les pièges qui se tendent. À noter que, si le titre vous en rappelle un autre, vous n'êtes pas seul. Et même si elle n'y fait pas du tout allusion dans le livre, Janice Locca voit plusieurs parallèles entre sa Jessica M. et le roman culte, Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée, portée à l'écran en 1981, deux récits de détresse et d'isolement assez bouleversants, merci. Je trouvais le parallèle intéressant. C'est un livre que j'ai lu à 12 ans. Dans les deux cas, le personnage central est une femme pas typique qui veut du pouvoir. C'est beaucoup plus tragique pour Christiane F. Mon personnage ne prend pas d'héroïne, mais de la médication qui va aussi l'amener dans une déchéance, glisse-t-elle. Soyez rassurée. Quant à ses enfants, elle va, au fil des pages, lentement mais tendrement, finir par vivre de beaux moments de poésie avec eux, et leurs petits jeux de mots sont réellement de toute beauté. Ici ou là, mais pas tout le temps. Le roman se conclut d'ailleurs sur une note d'espoir. Elle devait cela à ses lecteurs, lectrices, nous dit ici Janice Locca. À toutes celles qui se sont reconnues, il faut laisser une porte de sortie, avance-t-elle. Je ne voulais pas que ma Jessica M. soit une victime, je voulais qu'elle trouve des solutions. On vous laisse découvrir lesquelles. C'était « Maman, malheureusement », un texte de Sylvia Galipo, paru le 17 janvier 2024 dans La Presse.
L'art de chiner, un texte de Sophie Grenier-Héroux, paru le 24 février 2023 dans Le Devoir. La multiplication des sites web et des applications de revente, Marketplace et Kijiji en tête de liste, a plus que jamais remis l'art de chiner au goût du jour. Le Devoir s'est entretenu avec des expertes et des passionnés pour qui le seconde main est une philosophie de vie. D'aussi loin qu'elles se souviennent, Catherine Lévesque a toujours aimé fouiller chez les antiquaires et dans les ventes débarras. Depuis qu'elle est devenue technicienne en muséologie, le contact manuel avec les objets et leurs histoires font maintenant partie de son quotidien. Et l'amour des bazars ne l'ayant pas quitté, elle a lancé en 2019 sa page Facebook « Patine et poussière » où elle propose des accessoires de toutes sortes qu'elle déniche pour son propre plaisir. Son logo provient d'ailleurs d'un apron offert par sa grand-mère maternelle, une pro pour dénicher de petits trésors. « Mon plaisir, c'est de trouver des choses et les offrir aux autres », explique-t-elle. « Je voulais aussi créer une communauté, réunir les gens qui aiment le vintage, mais qui n'ont pas le temps de fouiller, alors que moi, j'adore ça. » Son conseil pour repérer des trésors, regarder la marque du fabricant, éviter les imitations, s'attarder aux textures, prendre le temps de vérifier si c'est réellement en bon état et voir au-delà de l'objet. Catherine Lévesque donne en exemple les lampes qu'elle s'amuse à créer. Un jour, je trouve l'abat-jour, puis la base quelque temps après. Je les assemble, je fignole certains détails. J'aime le côté créatif qui vient avec les trouvailles. Dans leur petit ouvrage, ma grand-mère faisait pareil. Restaurer, chiner, les autrices Anne Dufour et Catherine Dupin proposent divers trucs pour nettoyer ou réparer sans trop d'effort des objets altérés par le temps. Ne vous arrêtez donc pas aux apparences, lance-t-elle comme mise en bouche. Prendre un objet, c'est faire revivre le passé, continuer l'histoire. Il vous appartient ainsi de le garder en bon état pour le transmettre ensuite. Parmi les astuces, sucre en poudre pour améliorer l'état de dentelles anciennes, revitalisant pour adoucir la soie et du citron pour polir une casserole ternie. donner une deuxième vie à un objet. Catherine Galarneau en a fait son métier. La scénographe, constamment à la recherche d'objets de décor et d'accessoires, est à même de constater l'effervescence dans l'offre du second main, une plus-value pour son travail. Mon avantage, c'est que je ne cherche pas des choses qui sont à la mode ou au goût du jour. Je ne cherche pas nécessairement des meubles mid-century, dit-elle. La statuette de ballerine que j'ai trouvée, je ne pense pas qu'on était plusieurs à se l'arracher. Elle voit la popularité des sites de revente comme une occasion de faire du repérage et comparer les prix avec un équivalent neuf pour ainsi dénicher les vraies aubaines. Elle fréquente aussi assidûment l'Éco-dépôt à la Chine et Arte au centre-ville de Montréal, deux lieux qui trient et revalorisent les rebuts des écocentres. Aux premières loges de l'offre de seconde main toujours plus grande, Karine Galarneau a d'ailleurs pris la décision, dans sa vie personnelle, d'acheter le moins possible et presque uniquement de l'usager. « Je trouve ça plus intéressant d'avoir des choses qui m'ont été données ou que j'ai trouvées. C'est tellement beau de savoir que chaque objet que j'ai a une petite histoire et qu'un jour, il pourra poursuivre sa vie sans moi. » Made in Canada. L'impact de l'industrie du textile sur l'environnement est devenu une cause que l'actrice Noémie O'Farrell porte, au propre et au figuré. Dès l'âge de 14 ans, je me suis mise à m'habiller dans les friperies parce que je voulais de belles choses, mais je n'avais pas les moyens de me payer ces goûts de luxe-là. Rapidement, elle constate l'importance des fibres naturelles, du choix des textiles et la différence dans les coupes. Dès lors, s'habiller avec des vêtements recyclés devient une philosophie. À ceux et celles qui veulent s'initier à l'achat de biens de seconde main, elle suggère de visiter des friperies qui ont fait un premier travail de tri et de nettoyage et de prendre le temps d'essayer les vêtements. Noémie O'Farrell précise d'ailleurs que certains trésors se cachent derrière des étiquettes de marques méconnues ou d'origine européenne. Son conseil? Privilégier les matières nobles et naturelles comme la laine ou la soie. À une certaine époque, il y avait toute une écologie autour du vêtement. Les gens en prenaient soin. Laisse-t-elle tomber en ajoutant qu'elle ne peut résister à une étiquette « Made in Canada ». De trouvaille en trouvaille, son esprit de collectionneuse rassemble des pièces uniques et même de grands designers. Elle prend plaisir à prêter des vêtements ou à organiser des ventes spontanées. Pour elle, le plaisir n'est pas dans l'accumulation, mais dans le partage. Trouver, porter, redonner, tout ça, c'est circulaire et c'est ce qui est le plus amusant. C'était « L'art de chiner », un texte de Sophie Grenier-Héroux, paru le 24 février 2023 dans Le Devoir.